Henri de Régnier, l'hésitation sentimentale. Ce fut le désir d'exercer mon discernement sur un nouvel objet qui me fit souhaiter d'être présenté à Madame de Morège. J'avais entendu parler d'elle par plusieurs de mes amis, et ils en parlaient si diversement que ces diverses frances d'appréciation avaient piqué ma curiosité. Leurs opinions ne s'accordaient que sur un seul point. Madame de Morège était charmante. Quelques autres faits demeuraient également hors de discussion. Ils établissaient que Madame de Morège vivait fort indépendante et assez retirée, qu'elle jouissait d'une certaine fortune, que son mari habitait Rome et ne venait que rarement à Paris, et qu'il occupait rue Franklin un élégant entresol orné de meubles anciens et de bibelots au choix, parmi lesquels elle recevait volontiers quelques amis. La vente de chevreau fut l'occasion où je la rencontrai. Je lui demandai la permission de me présenter chez elle, qu'elle m'accorda. J'y retournai plusieurs fois. Mais après un certain nombre de visites, je m'aperçus que non seulement j'étais amoureux de Madame de Morège, mais que je l'aimais éperdument. Oui, je l'aimais, et le sentiment que j'éprouvais pour elle m'occupait tout entier. Rien au monde n'existait plus pour moi que mon amour. Je n'avais jamais rien connu de pareil pour aucune femme. Je demeurais effrayé et stupéfait d'une si impérieuse nouveauté. Parfois, en allant chez Madame de Morège, ce que je faisais presque chaque jour, je me demandais ce qu'elle pouvait bien penser de mon assiduité à laquelle elle se prêtait d'ailleurs de bonne grâce. Ma présence lui devait paraître inexplicable, à moins qu'elle ne m'attribuât à mon désœuvrement et à mon oisiveté. En effet, bien que le visage de Madame de Morège, le timbre de sa voix, le mouvement de son corps me causassent un ravissement profond, mais jamais je ne m'étais encore parvenu à ne rien lui laisser entendre du plaisir et de l'émotion que je ressentais à vivre auprès d'elle. Jamais je n'avais su lui adresser aucun de ces compliments qu'un homme élevé, bien élevé, doit à une jolie femme. Aussi pouvait-elle me croire complètement insensible à sa grâce et à sa beauté, car il me paraissait à plus forte raison impossible qu'elle eût pu deviner le secret trop bien sacré et gardé de mon amour. Et par une singularité particulière et qui s'ajoutait à celle de ma situation, le sentiment passionné que je nourrissais pour Madame de Morège ne me rendait ni distrait, ni stupide, ni irritable. Madame de Morège et moi avions de longues conversations sur toutes sortes de sujets. Il m'arrivait même, en ces causeries, de faire preuve d'esprit, de finesse et de gaieté. Je n'avais rien de l'ahurissement maladroit qui signale les amoureux. Mon infirmité, à moi, était autre. Elle consistait simplement dans l'impossibilité d'exprimer mon amour. Incapable de faire comprendre à Madame de Morège combien j'étais touché des agréments de sa personne, J'étais bien plus encore de lui avouer le désir d'en goûter plus intimement le charme et de lui dire l'impression ardente et profonde qu'elle avait faite sur moi en amour et sur mon cœur. Si donc l'aveu le plus respectueux et le plus tendre ne semblait une audace au-dessus de mes formes, il allait de soi que l'idée ne manifestait jamais autrement que par des paroles les plus détournées et les plus vagues l'amour que j'éprouvais. Il ne me met même pas bon esprit. Ou plutôt, il m'y venait parfois que comme une velléité dont je sentais aussitôt ce qu'elle avait d'insensé et d'impraticable. Ah, j'étais loin de mes théories favorites sur l'opportunité qu'il y a quelquefois à entreprendre avec les femmes en choisissant le moment grâce propice à ces sortes de démonstrations. Et cependant, Madame de Morège n'était point de ces personnes hautaines et distantes dont l'abord et les façons imposent la retenue et la réserve. Elle n'était ni froide, ni amère, mais au contraire, toute grâce et toute douceur. Ses manières simples et faciles eussent dû rendre aisées les explications les plus délicates, et pourtant, à la pensée de lui réserver, enfin lui parler de l'état de mon cœur, je me sentais aussi d'une telle appréhension que j'en défaillais d'avance. Oui, voilà où j'en étais avec Madame de Morège. Néanmoins, je n'imaginais pas que je fusse résigné à mon rôle d'amant muet. J'en souffrais cruellement. Mon amour ne s'accommodait nullement d'être sans espoir. Je me reprochais ma lâcheté, d'autant plus que je savais parfaitement que rien en soi-même ne la ferait surmonter. Ma seule chance d'en venir à bout était quelques circonstances imprévues et prodigieuses qui n'avaient aucune raison pour se produire, et je m'étais incapable de provoquer.